fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me, Neil.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans les Radio X-Files édition de ce vendredi 27 février où ce soir on aura comme thématique les histoires et les complots. Et Christian Page, bonsoir, bon vendredi.
Bonsoir Nick.
Comment ça va?
Bonsoir. Ça va bien?
Oui.
Écoute, j'imagine que tu as reconnu la célèbre phrase de Neil Armstrong.
Tout à fait.
C'est probablement l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire. Et pourquoi on a fait entendre ça en début d'émission? Parce que en deuxième partie d'émission, je vais revenir sur une enquête qui a été menée par un journaliste. Parce que dans les théories du complot, il y en a une qui veut que la NASA ait perdu les films originaux du premier débarquement là, des humains sur la Lune, qui était la mission Apollo 11 en juillet 1969. Donc, il y a un journaliste qui s'est attaqué un peu à cette qu'est-il advenu de ces films.
Okay.
Et puis, bon, il a publié un peu le résultat de ça, puis c'est assez amusant. Donc, ça, je vais y revenir en deuxième partie d'émission. Pour la théorie du complot, oui ou non, sommes-nous allés sur la Lune?
Ouais.
Et cette semaine, d'abord, disons-le tout de suite, au moment où on a enregistré l'émission la semaine dernière, on n'avait pas encore la nouvelle que Donald Trump allait ouvrir les dossiers sur les ovnis.
C'est vrai.
Donc, on le savait pas. Hein. Donc, on a fait l'émission sans savoir ça. On a évoqué que Barack Obama en avait parlé, mais on n'avait pas évoqué que Donald Trump allait ordonner la divulgation des dossiers. Donc, quelque part, la semaine prochaine, on va se faire un petit peu un spécial là-dessus. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, donc je les ai toutes réunies. Et la semaine prochaine, dans notre émission sur les questions, la question, ce sera à quoi doit-on s'attendre? Donc, on fera ça la semaine prochaine. Donc, simplement pour mettre un peu les gens dans le bain. Et cette semaine, comme tu l'as mentionné, c'est notre thématique histoire et complot. Donc, complot, on va y revenir un peu avec l'histoire d'Apollo 11. Et l'autre histoire qui m'a été cette semaine, il y a plein de gens qui m'ont inondé de ça. Et quand j'ai pris mes notes pour l'émission de ce soir, j'ai dit, l'identité de Jack l'Éventreur, puis là, j'ai mis encore avec un point d'exclamation côté, tu sais, encore.
On parle encore de ça,
Ouais, parce que c'est une histoire, en fait, qui est revenue dans l'actualité, c'est une espèce de résurrection, si je peux dire, dans les médias britanniques, entre autres. On est revenu sur une histoire qui, quand même, commence à être un peu vieillotte. Et à plusieurs reprises, je m'étais déjà exprimé là-dessus, soit il y a quelques temps, c'est l'an dernier ou il y a deux ans, quand je faisais l'émission à Radio X, Suspect X, où on parlait d'affaires criminelles. Évidemment, on se gardait souvent du temps. Bon, on avait fait un dossier sur Jack l'Éventreur. J'avais évoqué cette histoire d'analyse ADN. Et puis, durant la saison, c'était revenu. Alors, j'avais fait un petit aparté, j'en avais reparlé à nouveau. Et là encore, il y a cette résurrection de cette affaire-là, de l'analyse ADN qui identifierait Jack l'Éventreur comme étant un certain Aaron Kosminski. Et alors là, comme ça revenait encore dans l'actualité, j'ai vu ça passer. Puis j'ai dit, on va revenir, mais là, je vais revenir plus dans le détail. Pourquoi ça ne tient pas la route, cette affaire-là? Jusqu'à date, j'ai souvent dit « ça ne tient pas la route », mais je n'ai pas vraiment exprimé le pourquoi ça ne tient pas la route. Mais là, ce soir, on va y aller. Là. Pourquoi ça ne tient pas la route? Donc, dans la première partie de l'émission, on va se consacrer à ça, cette histoire d'analyse. Donc, je rappelle un peu les faits. L'affaire est sortie pour la première fois en 2014 avec la publication... comme on dit dans le langage des éditions, un hardcover en édition reliée, un ouvrage de Russell Edwards et dont le titre est Naming Jack the Ripper, donc nommer Jack l'Éventreur. L'ouvrage, après ça, a été republié en format poche, et a été publié également en français. Je pense qu'en français, c'est justement nommer ou identifier Jack l'Éventreur. À chaque fois qu'il y a une réédition du livre, on revient avec cette histoire-là. Donc, la première fois, lorsque Russell Edwards publie son livre, la première fois, en 2014, il affirme qu'il a une preuve ADN qui démontre qui est Jack l'Éventreur.
Il le sait.
Encore une fois, ouais, lui, il le sait. Et d'ailleurs, bon, pour les besoins des auditeurs là, qui ne sont pas familiers avec l'histoire de Jack l'Éventreur, je rappelle très rapidement les faits. Puis c'est vrai que de mon côté, Jack l'Éventreur a été une obsession. C'est plus qu'un intérêt, okay. Là. C'était une obsession pendant des années. J'ai fait plusieurs voyages à Londres. En fait, je suis le premier journaliste étranger à avoir eu un accès total aux archives de Jack l'Éventreur. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. Hein. Je les ai dans mon sous-sol, là, les archives de la police de Scotland Yard, parce qu'elles ont été transférées depuis en 1988, donc pour le 100e anniversaire de Jack l'Éventreur. Anniversaire, on s'entend, là. C'est quand même pas quelque chose que l'on fête là, avec des serpentins, là. Mais pour marquer le 100e anniversaire des crimes de l'Éventreur, les archives. J'étais à Londres à ce moment-là. J'avais demandé une autorisation pour voir les archives. J'avais obtenu une autorisation du Home Office, qu'on pourrait traduire là, dans le langage politique canadien. Là, si on le regarde dans une officine, ce serait le ministère de l'Intérieur. Donc, il m'avait donné une autorisation pour avoir accès aux archives. Et donc, j'ai une copie de ces archives-là à la maison. C'est au moment où elles ont été transférées des locaux de Scotland Yard, hein, la police métropolitaine, mais qu'on connaît bien sous le nom de Scotland Yard, qui a été le principal enquêteur à l'époque des crimes de l'Éventreur. Ces archives ont été transférées en banlieue de Londres, à Kew, où ils sont gardés aux archives nationales. Donc, j'avais eu accès à ces archives-là. Donc, ça a été pour moi une obsession. Hein. Je m'étais lancé le défi de trouver qui était Jack l'Éventreur et j'ai dû échouer. Hein. J'ai dû reconnaître qu'il n'y avait pas de possibilité d'identifier l'Éventreur. Mais néanmoins, c'est pas ce que semble dire Russell Edwards. Et je rappelle pour les gens qui est ce Jack l'Éventreur, là, le personnage. On est en 1888. Hein. Les crimes de l'Éventreur vont se produire. Parce qu'il faut savoir que les archives de Scotland Yard contiennent 10 ou 11 victimes. Mais de ces 10 et 11 victimes, les autorités et les experts sont d'avis que seulement 5 d'entre elles ont été tuées par Jack l'Éventreur. À un moment donné, dès qu'une femme était assassinée dans les rues de Londres, ça devenait « Ah, une victime de l'Éventreur ouais. ». Non. À un moment donné, c'était un peu comme une espèce de dossier de Jack l'Éventreur, c'était le fourre-tout de tous les meurtres, les féminicides qui étaient commis à Londres. Non, quand on regarde le modus operandi de l'assassin, tout ça, il y a ce qu'on appelle les 5 victimes canoniques. Il y en a peut-être une 6e, mais de façon certaine, il y en a 5. La première est assassinée le 31 août 1888, elle s'appelle Polly Nichols, mais en fait, de son vrai nom, c'est Mary Ann Nichols. Et ensuite, il y a une semaine plus tard, il va assassiner une autre femme, on est au début du mois de septembre 1888, une certaine Annie Chapman. Et puis, dans la soirée du 29 au 30 septembre, il va faire ce qu'on appelle la nuit du doublé. Il va assassiner deux femmes, une certaine Elizabeth Stride, une certaine Catherine Eddowes. D'ailleurs, il faut le retenir parce que Catherine Eddowes va être un peu notre vedette de ce soir, et qui est la 4e victime canonique de l'Éventreur. Et puis, début du mois de novembre, il assassine une 5e victime, une certaine Mary Jane Kelly, et qui est la dernière de ses victimes. Canoniques. Après ça, Jack l'Éventreur disparaît et les crimes allaient tous crescendo. Donc, la première victime, il lui tranche la gorge, il l'éventre un peu, je passe un peu sur les détails, mais plus les crimes vont avancer, plus les crimes sont odieux et monstrueux, plus l'acharnement de l'assassin est grand. Et la dernière victime, Mary Jane Kelly, ben, elle est littéralement dépecée. C'est la seule, d'ailleurs, qu'il va assassiner à l'intérieur. Les autres sont assassinés dans la rue. Et comme il est à l'intérieur, ben, évidemment, il y a une espèce d'immunité. Hein. Il n'est pas dans la rue, il ne risque pas de se faire surprendre. Et donc, on peut imaginer qu'il a passé de longues heures à dépecer là, littéralement le cadavre.
Tabarouette, OK. Ouais.
Et durant cette période, la police va recevoir différentes lettres. D'ailleurs, le nom de Jack l'Éventreur vient d'une lettre que l'on sait être fausse. Hein.
Ah oui?
Mais bon, à l'époque, okay. On ne savait pas. Oui, c'est ça. À un moment donné, les policiers de Londres, quand on s'est mis à chercher Jack l'Éventreur, on se disait, mais comment ce type-là peut-il assassiner des femmes sans être surpris? Parce que bon, on s'est dit, il évente les femmes dans les rues, il doit être couvert de sang. Comment se fait-il qu'on ne le voit pas dans les rues? Hein? Il n'y a pas de témoins qui disent, voilà, on a vu un homme qui déambulait sur la rue couvert de sang. Il faut dire que les crimes de l'Éventreur ont tous été commis dans une petite quadrilatère à Londres. Hein. En fait, à la limite de deux quartiers, Whitechapel et Spitalfield, qui sont ce qu'on appelle le East London. Ce sont des quartiers excessivement pauvres. Et ce sont dans ces quartiers de l'Est de Londres que se trouvent également les abattoirs. Donc, la police s'est dit, peut-être que l'homme, on ne le remarque pas parce qu'on est habitué de voir des gens avec des tabliers de cuir puis des couteaux qui vont travailler aux petites heures du matin dans des abattoirs. Alors, si l'éventreur s'habille avec un tablier en cuir et des couteaux autour de lui, on va penser que c'est un employé d'un abattoir et on ne remarquera pas qu'il est couvert de sang. T'sais. Ça, il va se mêler dans le paysage, si je peux dire. Donc, la police avait lancé l'idée, on va chercher un... Il l'avait surnommé tablier de cuir. Le premier nom de Jack l'éventreur, c'est tablier de cuir.
Okay.
Donc, on cherchait tablier de cuir. Et puis, après la deuxième victime de l'éventreur, donc Annie Chapman, la lettre est datée, la police de Scotland, en fait, c'est la lettre n'est pas envoyée à Scotland Yard, elle est envoyée à l'agence centrale de Londres. Elle est datée du 25 septembre. Et la lettre dit... j'ai pas laissé le temps à la victime de crier, blablabla, l'auteur se vante de ses crimes, mon couteau est affûté. Et là, à la fin, il termine en disant, puisque la police, votre blague à propos de tablier de cuir m'a bien fait rire, mais puisque la police aime tellement me trouver des surnoms, en voici un pour vous, pourquoi pas Jack l'éventreur. Donc, il se donne ce nom-là. On sait aujourd'hui que cette lettre-là, elle est fausse. Elle a probablement, très certainement même, été envoyée par un journaliste qui voulait se moquer de Scotland Yard. Mais le nom va passer à l'histoire. Hein. À partir de ce moment-là, à partir du moment où la poste centrale reçoit cette lettre qu'elle va faire parvenir à la police ne va plus parler maintenant de l'assassin de East London que sous le nom de Jack l'éventreur. De toutes les lettres, la police va recevoir 300 lettres à peu près durant cette période, ce qu'on appelle l'automne de la terreur. Durant cet automne de la terreur, la police va recevoir à peu près 300 lettres et on croit qu'une seule d'entre elles était signée de l'assassin. Et cette lettre-là n'a pas été envoyée à la police, ni non plus à la poste centrale. Elle a été envoyée au moment où, au plus fort des crimes de l'éventreur. Il y avait des comités de vigilance qui s'étaient mis en place dans le East London. Donc, des gens qui la nuit patrouillaient les rues.
Ouais,
qui patrouillaient la nuit avec des bâtons en espérant mettre la main sur Jack l'éventreur. Et on en profitait également pour se faire un peu de capital politique. Il y avait un certain George Lusk qui, lui, en profitait. Dès que les journalistes se pointaient, il avait de longues récriminations contre les autorités, contre la police, contre le gouvernement, puis il en profitait. Et il disait souvent, il disait aux journalistes, répétait aux journalistes, que lui et son groupe de vigilants, les vigilantes, hein, ces espèces de justiciers, allaient mettre la main sur l'éventreur avant la police.
OK.
Et au mois d'octobre, donc on est le 16 octobre, George Lusk reçoit chez lui un petit paquet enveloppé dans un papier qui est taché de sang. Enlève le papier. Là, il y a une boîte. Puis à l'intérieur de la boîte, il y a un morceau de chair qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Et il y a une lettre qui accompagne cet envoi. La lettre est écrite dans un très mauvais anglais avec beaucoup de fautes d'orthographe. Et l'auteur dit « Cher Monsieur Lusk, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. » Peut-être si vous attendez un peu, pourrais-je vous envoyer le couteau avec lequel je l'ai prélevé. Et c'est simplement signé « Attrapez-moi si vous le pouvez ». Donc l'auteur n'utilise pas le sobriquet de Jack l'éventreur. Il dit simplement « Attrapez-moi si vous le pouvez ». C'est un peu comme si l'auteur disait « J'ai pas besoin de ce cinéma ou de ce théâtre de Jack l'éventreur. Vous savez qui je suis. Attrapez-moi si vous le pouvez ». Et cette lettre-là, évidemment, par le contenu et par aussi l'orthographe, tranche énormément des autres lettres reçues à Scotland Yard. Et la police croit que cette lettre-là, d'ailleurs le morceau de chair qu'on a fait, examiner par des médecins à l'hôpital de Londres, on a pu déterminer que c'était bel et bien la moitié d'un rein. Évidemment, à l'époque, la médecine légale ne permettait pas de déterminer si c'était un homme ou une femme, mais on a pu déterminer que c'était la moitié d'un rein. Et qui plus est, que ce rein était affecté d'une maladie qu'on appelle la maladie de Bright, qui est un affaissement des tissus rénaux dû à l'alcoolisme. Or, Catherine Eddowes, notre vedette de ce soir, sur laquelle je vais revenir, s'est fait enlever un rein par l'assassin et elle était atteinte de la maladie de Bright. Donc, ce serait vraiment une étrange coïncidence que la moitié du rein reçu par George Lusk ait présenté les mêmes pathologies que le rein de Catherine Eddowes qui a été enlevé par l'éventreur. T'sais. Donc, ce rein-là. Et après sa cinquième victime, donc début du mois de novembre, il disparaît. et on n'entendra plus jamais parler de Jack l'Éventreur. Et là, donc, évidemment, c'est toutes les théories possibles qui étaient l'Éventreur. Il va devenir, il est le premier tueur en série de l'histoire moderne. Et évidemment, c'est devenu un peu un jeu des indices qui était Jack l'Éventreur. Et avec le temps, bien évidemment, il y a des centaines d'individus qui ont été pointés du doigt comme étant peut-être Jack l'Éventreur. Donc, cela étant présenté, voici, ça, c'est le portrait robot, le portrait général des crimes de l'Éventreur. Arrive donc en 2014 la publication de ce livre, Naming Jack the Ripper, par Russell Edwards. Il dit, voilà, j'ai pu identifier qui était l'Éventreur. Et comment y est-il arrivé? Il a acheté dans une vente aux enchères une pièce de tissu qui était présentée comme étant un châle qu'aurait porté apparemment Catherine Eddowes, la quatrième victime de l'Éventreur, deuxième victime lors de cette fameuse nuit du doublé. Là. La première victime, c'est Elizabeth Stride, et à peu près une heure plus tard, il va assassiner une autre femme sur Mitre Square, qui est Catherine Eddowes. Donc, le châle est vendu aux enchères, et on prétend que le châle était un châle qui avait appartenu à Catherine Eddowes. Et à partir de cette pièce de tissu que Russell Edwards va acheter, bon, il va la prêter à des chercheurs dans le domaine de la génétique et eux vont identifier que sur le morceau de tissu en question, il y a, semble-t-il, de l'ADN, des fluides corporels. Il va faire analyser ces fluides corporels par une analyse ADN et les analyses vont faire un séquençage. Et comme c'était un tissu, un châle que l'on prétendait être celui de Catherine Eddowes, ce fameux Russell Edwards va réussir à trouver une descendante de Catherine Eddowes, une certaine Karen Miller. Il va la retrouver. Elle est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille de Catherine Eddowes. Donc, il va prendre un échantillon sanguin et il va, dans les personnes les plus souvent nommées comme étant peut-être Jack l'Éventreur, il y a un individu qui revient à plusieurs reprises dans les dossiers de Scotland Yard ou à tout le moins dans des écrits de policiers qui ont été proches de l'enquête. C'est un type qui s'appelle Aaron Kosminski. Au moins trois policiers de Scotland Yard vont le désigner comme étant l'Éventreur. Dans ses mémoires, un certain Robert Anderson, qui était le directeur du département des enquêtes criminelles de Scotland Yard à l'époque des crimes de l'Éventreur, dans ses mémoires, il va écrire « Je sais qui était l'Éventreur, mais le nommer ne donnerait strictement rien parce que sa famille l'envoyait dans un asile psychiatrique où il est mort éventuellement, donc on ne gagnerait rien à ce que je révèle son identité. » Et on sait que de ce livre-là, on en a retrouvé un qui avait été remis par Robert Anderson à l'un de ses enquêteurs qui s'appelle Donald Swanson. Et l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Donald Swanson, en trouvant le livre de son grand arrière-arrière-grand-père qui lui avait été donné par Robert Anderson, il a trouvé une note de bas de page où Donald Swanson, qui était l'un des policiers sur le terrain, là, très proche de l'enquête de l'Éventreur, a écrit « Oui, nous savions qui était cet individu. Cet individu s'appelait Aaron Kosminski. » Donc, on a déjà là, ici une identification. Et ensuite de ça, il y a une autre note, là, ce serait trop long de tout expliquer, mais un policier qui a succédé à Robert Anderson à la tête des enquêtes criminelles, un type qui s'appelle Melvin McNaughton. On a retrouvé dans des archives une note dans laquelle il dit « Il y avait, à mon avis, trois suspects ont été portés à l'attention de Scotland Yard à l'époque des crimes de l'Éventreur. L'un d'eux s'appelait Montagu John Drewitt, le deuxième est un docteur, le docteur Ostrog, et le troisième est un certain Aaron Kosminski. » Donc voilà le Kosminski qui revient encore. Donc comme il a été identifié à quelques reprises par des policiers, ben, il devient un peu un suspect plus intéressant. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il faut quand même l'avouer, là. Aucun de ces policiers n'explique pourquoi Aaron Kosminski a été suspecté. On ne le sait pas. Au mieux, ils disent « c'est un indigent qui aurait présenté des gestes de violence envers les femmes ». Mais on n'a pas de dossier. Il n'y a pas un dossier sur Aaron Kosminski. Pourquoi lui? C'est un gars parce qu'il avait les cheveux courts, puis on ne le sait pas. Mais bon, il a été nommé à quelques reprises. Donc, ce Russell Edwards, à partir du moment où il achète ce fameux châle, il retrouve donc une descendante de Catherine Eddowes. Il prélève, elle lui donne un échantillon sanguin. Et Aaron Kosminski, il faut quand même le dire, il est décédé dans un asile psychiatrique en 1919 et il est décédé sans enfant. Par contre, il avait une sœur, Mathilda, et Russell Edwards a retrouvé l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Mathilda Kosminski Donc, il a pris un prélèvement d'échantillon sanguin parce qu'on s'est dit, bon, c'est, il y a quand même une branche de la famille, là, c'est quand même de la branche de la famille, on va peut-être retrouver des correspondances. Et là, il dit, voilà, je suis arrivé à une analyse ADN et l'ADN qui a été analysé montre que l'ADN sur le châle, il y a des traces de sang. Ce sang-là a été identifié comme avec une correspondance avec celui de la descendante de Catherine Eddowes. Quant à il y a des échantillons de fluide corporel, du sperme, et lui aurait été identifié comme étant celui de, il y aurait des marqueurs qui indiqueraient qu'il proviendrait de la même famille que Kosminski. Donc, il dit, voilà, j'ai une identification. Jack l'Éventreur, c'est Aaron Kosminski. Et cette histoire-là, elle revient périodiquement dans les médias. Et là, encore une fois, j'imagine qu'à Londres, on a dû faire une réédition du livre « Naming Jack the Ripper », d'où la raison pourquoi l'affaire est ressortie. Mais cette histoire-là, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise pour plusieurs choses. Là, je vois que le temps file.
Ouais.
J'aurais voulu aller...
Ben, on peut prendre 5 minutes encore, là.
OK. Bon, allons-y pour le... Bon, l'histoire du char ne tient pas la route pour plusieurs raisons. D'abord, le char en question, d'où vient-il? Bon, l'histoire que raconte Russell, c'est de dire le char a appartenu à un policier qui lui aurait été... qui aurait découvert le corps de Catherine Eddowes, un certain Amos Simpson. Et Amos Simpson aurait donc gardé le char. En fait, il l'aurait pris pour l'offrir éventuellement à sa femme comme cadeau. Et comme sa femme, quand elle a appris que c'était le châle d'une femme qui avait été assassinée, ben, elle n'en a pas voulu. Donc, Amos Simpson aurait gardé le châle chez lui et il aurait été passé à des membres de la famille. Et ce sont des membres de cette famille, arrière-arrière-petits-neveux, qui éventuellement vont le vendre aux enchères. Cette histoire-là ne tient pas la route. D'abord, on sait qui a trouvé Catherine Eddowes. Ce n'est pas Amos Simpson. C'est un officier qui s'appelait Edward Watkins. C'est lui qui a trouvé le corps. Et il n'y a jamais eu de Charles, Catherine Eddowes. Donc, dès que Watkins a trouvé le corps... D'ailleurs, ce Amos Simpson, disons-le tout de suite, quand les crimes de l'éventreur ont été commis, c'était un peu complexe, là, mais les crimes de l'éventreur, je t'ai mentionné tantôt, ils ont été commis dans deux quartiers, en Whitechapel et Spitalfields, sur la limite. Mais en même temps, ce n'est pas rien que la limite de deux quartiers. C'est la limite de la ville et... de l'agglomération. Hein, il y a le centre de Londres qu'on appelle la City. Et la City a sa propre police. Dès qu'on sort de la frontière de la City, là, on tombe avec la police métropolitaine qui était Scotland Yard. Quatre des crimes de l'éventreur ont été commis sur le territoire de Scotland Yard, mais un a été commis à l'intérieur des limites de la cité. Et c'est la police de Londres, la police, pour faire un comparatif avec le Québec, là, on a la sûreté des... Prenons la Québec.
Sûreté municipale et sûreté du Québec, par exemple.
C'est ça, on a la sûreté du Québec, puis on a la police de la ville de Québec.
Oui.
Bon, à Montréal, c'est un peu la même chose. Bon, ben, pour avoir la comparaison... Imagine-toi que quatre des crimes commis par l'éventreur ont été enquêtés par la Sûreté du Québec et un crime a été enquêté par la police municipale de Québec. Tu comprends?
Oui.
Mais dans le cas des crimes de l'éventreur, le crime de Catherine Eddowes a été enquêté par la police municipale. C'est la police de la ville de Londres qui a enquêté sur le meurtre de Catherine Eddowes. Alors que le Amos Simpson en question était un policier, un bon policier d'ailleurs, mais un policier de la police métropolitaine, donc un peu comme de la Sûreté du Québec. Donc que ferait un policier de la Sûreté du Québec sur une scène de crime de la police municipale de Québec? Ça n'a comme pas de sens.
C'est ça.
Ensuite, on sait, on a les registres, le détail. On sait que Watkins trouve le corps à 1h45, il siffle, et là, d'autres policiers vont arriver sur place, on va faire réserver la place, le médecin légiste arrive, on transporte le corps à la morgue. À aucun moment, ces documents-là ne mentionnent un Amos Simpson. Et d'ailleurs, qu'aurait fait Amos Simpson sur cette scène de crime-là ce soir-là? C'est même pas tu sais, je comprends, c'est même pas son territoire. D'ailleurs, à l'époque, il était attaché à la police de Scotland Yard, mais il patrouillait à Islington, qui est un quartier assez éloigné là, de Whitechapel, où les crimes ont été commis. Rien à voir, là. Et ensuite, on sait que le corps de Catherine Eddowes est amené à la morgue. Et quand il arrive à la morgue, en fait, c'est la Golden Lane Mortuary de la cité de Londres où le corps est transporté. Il y a un policier l'inspecteur Collard, qui va déshabiller le corps de Catherine Eddowes et il va prendre en note en détail tous les objets qu'elle possède, allant de ses bas en passant par ses sous-vêtements jusqu'aux objets qu'elle a dans sa poche, son bonnet, un peignoir qu'elle a accroché, pas un peignoir, mais une brosse qu'elle a accrochée dans ses cheveux. Tout est détaillé, là. Elle a, tu sais, là, quand tu lis le rapport, c'est elle avait 3 shillings, 2 pence dans sa poche gauche, une petite boule de coton dans sa poche droite. Tu comprends? Tout est détaillé.
Oui.
Il n'y a aucun châle qui est mentionné.
Aucun.
Bon, c'est pas mentionné. Donc, l'idée que le châle vient de Catherine Eddowes, et qui plus est, le châle, Ce que notre Russell Edwards ne dit pas, c'est que ce char-là, d'ailleurs, était, parce qu'il a circulé, hein, ça fait partie un peu comme d'une espèce de la famille. Jamais de son vivant, alors, il n'y a aucune preuve que de son vivant, ce policier, Amos Simpson, n'ait jamais prétendu que cet objet-là était le char de Catherine Eddowes. C'est comme si dans famille, il y avait ce char, cet objet-là, ce morceau de tissu-là, et qu'éventuellement, ou la famille a mal compris une histoire, tu sais, c'est bouche à oreille de génération en génération. Peut-être que Amos Simpson a peut-être dit à des membres de sa famille, moi j'étais policier quand les crimes de l'éventreur ont été commis. Puis éventuellement, c'est moi j'étais policier quand on a trouvé les cadavres de Catherine Eddowes ou d'une des victimes. Et moi j'étais policier, j'ai eu un morceau de tissu. Tu comprends-tu comment l'histoire se déforme avec le temps? Mais de son vivant, on n'a jamais trouvé aucun écrit où Amos Simpson aurait dit j'ai une pièce de tissu qui aurait été le châle de Catherine Eddowes. Donc, on n'a pas ça. Et l'analyse qui a été faite par Sotheby's montre, parce que le châle éventuellement s'est retrouvé chez les experts de Sotheby's, parce qu'il avait été prêté au Black Museum de Scotland Yard avant d'être vendu aux enchères. Et Scotland Yard l'avait fait analyser par les experts de Sotheby's, qui avaient clairement démontré que le châle en question n'est rien de plus qu'un chemin de table, et que ce chemin de table a été conçu, a été fabriqué quelque part entre l'an 1900 et 1910, c'est-à-dire à peu près là, une quinzaine d'années après les crimes de l'éventreur.
Tiens donc.
Donc, c'est donc le châle, ça ne vient pas de Catherine Eddowes. Donc, et ensuite, ce que ne nous dit pas non plus Russell Edwards, c'est que l'analyse qu'il a fait faire, où il dit, bon, j'ai analysé les échantillons d'ADN, en fait, c'est du mtDNA, de l'ADN mitochondrial qu'il a fait analyser, et de l'ADN mitochondrial, c'est un type d'ADN qu'on retrouve dans les mitochondries, dans les cellules, qui est transmis de la mère aux générations suivantes. Mais c'est moins précis que de l'ADN nucléaire ou nucléique. Quand on parle d'ADN, généralement, c'est de l'ADN nucléaire ou nucléique auquel on fait référence, alors que l'ADN, la mtDNA, c'est beaucoup moins précis. Grosso modo, si on essaie de résumer, les résultats qu'a obtenus Russell Edwards avec son analyse ADN pourraient correspondre, grosso modo, à 200 000 londoniens.
OK. Rien de précis. Que, bon.
Ouais, donc, tu sais, donc, tu prends le voisin puis tu devrais trouver une connaissance. C'est tous ces petits détails-là qui ne sont pas évoqués. Donc, la provenance du châle, ça n'a pas de sens. L'histoire que Russell Edwards raconte pour expliquer la provenance du châle, ça ne tient pas la route. D'ailleurs, de toi à moi, là, tu sais, si toi, tu es policier, tu volerais-tu un châle d'une femme assassinée, égorgée, qui est rempli de sang puis de sperme pour le donner à ta blonde? Je te conseille de donner une boîte de. Ouais, donne-y une boîte de chocolat ou des fleurs, ça va être beaucoup plus séduisant qu'un châle. Il y a comme une absurdité là, dans cette histoire-là. Donc, non, si vous voyez cette nouvelle-là passer, l'histoire de l'ADN, le char, l'identification de Jack l'Éventreur, la réponse, c'est non, c'est une fraude pour vendre du papier. On veut vous vendre des livres, puis on essaie de vous faire croire qu'on a identifié Jack l'Éventreur. Je te le dis, là, en 2026, aujourd'hui, on n'a strictement aucune idée de qui était Jack l'Éventreur. On n'en a pas. La seule chose que l'on sait, parce qu'on a plus de connaissances aujourd'hui dans le domaine de la criminalistique qu'on en avait au 19e siècle, la seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que Jack l'Éventreur, puis c'est un portrait, on avait demandé à des profilers du FBI, parce qu'à partir du moment où on a commencé à mieux connaître comment fonctionnait l'esprit d'un tueur en série, bon, on a commencé à regarder, bon, est-ce qu'on pourrait appliquer cette méthode-là à Jack l'Éventreur? On a demandé, il y a quand même une trentaine d'années maintenant, on avait demandé au FBI de faire un portrait robot de qui était Jack l'Éventreur. Et tous les experts s'entendent pour dire que c'était probablement un homme âgé entre 25 et 40 ans, et un homme qui appartenait à cette communauté-là. Hein, ce n'était pas un étranger, ce n'est pas un docteur avec un chapeau haute forme. Ça, c'est une légende.
Ouais.
C'est un homme qui appartenait à ces quartiers défavorisés-là. Donc, on est dans des quartiers pauvres, et Jack l'Éventreur appartenait à cette, entre guillemets, cette faune des quartiers défavorisés. C'est pour ça qu'il n'a jamais attiré vraiment l'attention, puis que les prostituées acceptaient de l'accompagner dans un petit allier sombre, etc. Donc, en dehors de ça, bon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire. Un homme, 25, 40 ans, qui appartenait à ces quartiers défavorisés, on peut dire que probablement il était peu instruit ou complètement illettré, et que probablement il avait une place où il pouvait se laver, se nettoyer. Peut-être avait-il une chambre où il partageait un appartement avec d'autres personnes, mais qui à certains moments, parce que tous les crimes ont été commis les week-ends, donc est-ce que durant cette période-là, l'appartement qu'il occupait avec d'autres personnes était libre, ce qui permettait à lui de se rendre chez lui après, oui. de se laver. Puis...
Mais sans en témoin, dehors, tout ça. Ouais.
Voilà, donc on ne sait pas grand-chose. Et les chances qu'on ait réussi ça, je comprends que pour les amateurs, c'est une grande énigme policière. Qui était Jack mm-hmm. l'Éventreur? Mais je peux t'assurer que j'ai une conviction qui est personnelle, mais c'est une conviction qu'on arrivera à moins de trouver un document écrit où quelqu'un reconnaît être Jack l'Éventreur. Ça s'est déjà vu dans le passé. Hein. Il y a eu un journal de Jack l'Éventreur qui a été publié qui était une fraude. Là. Mais tu sais, à moins de trouver un document ou quelque chose comme ça là, qui viendrait jeter une lumière nouvelle, là, je pense que les chances d'identifier Jack l'Éventreur sont à peu près nulles. Même chose à retenir. Cette histoire d'ADN et qui identifie Aaron Kosminski comme Jack l'Éventreur, c'est de la foutaise.
Voilà.
Voilà, c'est dit.
On va faire une courte oui. pause parce Parfait. Que le temps file et on a oui, plein d'autres oui. sujets super intéressants. Le train d'or nazi, le triangle des Bermudes, les films de l'alunissage. Bon, on n'aura pas le temps de tout faire, assurément, mais...
Bon, mais on va y aller avec les films de l'alunissage après la pause.
Excellent. Donc, bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98 en Radio X.
Radio X-Files. Execute
program. Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files, édition du vendredi soir. J'espère que vous passez un agréable début de week-end. Et Christian, sans plus attendre, là, on va se concentrer maintenant au niveau des films de l'alunissage d'Apollo 11.
D'Apollo 11.
Ouais.
Donc, on a entendu en début d'émission cette célèbre phrase de Neil Armstrond.
Oui.
C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. On était à ce moment-là, heure internationale, le 21 juillet, il était 2h56 du matin, lorsque Neil Armstrong a foulé le pied sur la Lune, a mis le pied sur la Lune, et il était le commandant de la mission Apollo 11. Et avec lui, sur la Lune, il y avait Buzz Aldrin, de son vrai nom Edwin, on l'appelle toujours Buzz, mais bon, parce qu'il inspire aussi le personnage de Buzz Lightyear, aussi, là, l'histoire de jouet. Et puis bon, il n'aimait pas son prénom, qui est Edwin, mais tout le monde l'appelait Buzz. Mais bon, Buzz Aldrin était le deuxième homme à marcher sur la Lune avec Neil Armstrong. Et le troisième membre de l'équipage, Mike Collins, lui était... à bord du vaisseau Apollo 11 qui tournait autour de la Lune, qui est resté en orbite autour de la Lune. Donc, c'est l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité.
Assurément.
L'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité technologique, hein, le plus grand exploit technologique de tous les temps. Et ben, évidemment, c'est un événement si historiquement remarquable qu'il est normal que certaines personnes aient commencé à douter, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et qui plus est, quand on regarde dans les théories du complot, ceux qui remettent en question les missions Apollo sur la Lune, c'est surtout des gens qui sont nés après les missions Apollo, donc qui sont nés après les années 70. Hein, parce que les missions Apollo, c'est il y a eu 6 missions sur la Lune, hein, donc de Apollo 11 à Apollo 17.
OK, c'est 17. Je pensais que ça avait pris fin après Apollo 13.
Non, il y a eu d'Apollo 11 à Apollo 17. Apollo 17, c'est la dernière mission lunaire. On est en décembre 1972. Et Apollo 13, en fait, aurait dû allunir aussi.
Oui.
Hein? Mais bon, on a tous vu le film, donc il y a eu un pépin. Hein? Houston, we have a problem. Bon, ben c'est ça. Hein? Donc, on a avorté la mission Apollo 13, mais les autres missions, donc 12, 14, 15, 16 et 17, sont posées sur la Lune. On devait aller jusqu'à Apollo 20, mais à cause des coûts que représentaient ces missions, puis également le désaveu du public. Là, à un moment donné, les gens se sont dit, bon, ben, ça coûte des millions,
oui,
on va là chercher de la roche, c'est beau, là, mais bon,
c'est assez.
De la roche, on en a, c'est assez. T'sais. Puis on avait d'autres problèmes à l'époque aussi, il y avait la guerre du Vietnam, il y avait la crise du pétrole, donc on ne comprenait pas trop pourquoi on investissait autant d'argent pour retourner des hommes sur la Lune. Qui plus est, un des premiers objectifs, il ne faut pas se le cacher, c'est un objectif politique, c'est d'être les premiers sur la Lune avant les Soviétiques. Et comme on avait réussi ce défi-là, ben là, on avait gagné la course.
L'intérêt était moins grand.
Donc, l'intérêt était moins grand. Là, on disait, oui, mais il y a un intérêt scientifique à ramasser des cailloux. Ben oui, mais là, des cailloux, ça coûte cher, hein, ramasser des cailloux de Lune. Donc, dans les théories du complot, ben, très souvent, les gens qui sont nés après les années 70, qui n'ont pas vécu l'effervescence et l'engouement de ces missions-là, ben pour eux, les missions Apollo, ce n'est rien de plus que des photos ou des films. Et quand on regarde les difficultés que représente le retour des hommes dans l'espace, parce qu'au moment d'enregistrer notre émission, encore une fois, la NASA vient de retarder le départ de la mission Artemis 2. Donc d'ailleurs, la fusée est retournée dans son hangar et là, on parle d'un départ seulement au mois d'avril. Donc on voit qu'on a des problèmes. Mais en réalité, c'est parce qu'on fait appel à une autre technologie, puis les objectifs ne sont pas les mêmes. Hein. Mm-hmm. Les objectifs des missions Artemis maintenant, c'est pas simplement d'y aller puis aller ramasser des cailloux. On aurait pu le faire depuis longtemps. C'est d'y aller puis d'installer des installations permanentes sur la Lune. Donc, c'est vraiment un autre objectif. Mais dans les éléments que évoquent les tenants de la théorie du complot, on n'est pas allé sur la Lune, tout ça a été tourné dans un décor de cinéma. Il y a un des éléments qui revient assez régulièrement, c'est-à-dire, oui, puis la preuve, c'est que la NASA a effacé les films d'Apollo 11. Hein, cet événement marquant de l'histoire de l'humanité, les premiers hommes qui débarquent sur la Lune, oh oui. Puis la NASA dit, on a effacé les films. Oui. Ouais. Tu comprends que ça vient ajouter de l'eau au moulin des théories du complot. Mais en réalité... C'est pas tout à fait. Le complot, c'est faux. Hein? On est bel et bien été sur la Lune. D'ailleurs, ceux qui en doutent, il y a des photographies qui ont été prises, notamment par les sondes indiennes, le Chandrayaan, où on peut voir les sites d'atterrissage. On voit les LEM, on voit les traces laissées par les astronautes, on voit la petite Jeep là, qui a été utilisée avec les missions Apollo 15, 16 et 17 qui est laissée sur la Lune. Donc, on a des images, de très, très belles images des sites d'atterrissage photographiées depuis l'espace par une sonde indienne. Les sites d'atterrissage sont exactement là où la NASA disait qu'ils étaient. Là. Quand la sonde indienne s'y met en orbite autour de la Lune, avec les coordonnées, elle est repassée au-dessus du site d'atterrissage d'Apollo 11, Apollo 12, 14, exactement là où, à l'époque, ils s'étaient posés, puis on a trouvé les vestiges des missions sur la Lune. Mais c'est vrai que cette histoire-là, c'est des films disparus, c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Et la réalité est que c'est vrai que les films ont été effacés. Et là, il y a un journaliste qui s'appelle Tim Dodd qui s'est lancé un peu à la piste de savoir, mais pourquoi on a effacé les films d'Apollo 11?
Oui, pourquoi?
Et là, donc, il vient de publier un long article. Je trouve fort intéressant. Donc, il faut savoir qu'à l'époque des missions Apollo, il y avait une transmission qui était faite en direct. Hein, le signal était transmis de l'espace vers la Terre. Et là, quand la NASA recevait, quand les différentes stations qui étaient en lien avec la NASA recevaient le signal brut, ce signal-là était retransmis à Houston et Houston l'envoyait directement aux stations de télé. Donc, quand on l'a vu, moi, je me rappelle, toi, tu n'étais pas au monde à ce moment-là. Mm-hmm. Moi, j'y étais et j'avais 6 ans à l'époque. Et je me rappelle, quand j'étais devant le téléviseur, mon grand-père m'avait fait lever pour voir Armstrong débarquer sur la Lune.
Wow.
Et j'étais devant le téléviseur, je regardais Armstrong sur la Lune et pour les plus vieux, là, il y avait un vulgarisateur scientifique au Québec qui était bien connu, qui s'appelait le professeur Jacques Lebrun. Donc, c'est lui qui animait l'émission de l'alunissage d'Apollo 11. Et là, je me rappelle de quand on a vu Armstrong débarquer, ces images un peu granuleuses en noir et blanc. Et là, on entend Armstrond dire « Bon, un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité ». Je me rappelle que le prof Lebrun pleurait, là, les yeux pleins d'eau. Ça montre que c'est un moment marquant.
Oui, tout à fait.
Puis on voyait clignoter dans le bas de l'écran « Armstrong est sur la Lune ». Ça clignotait « Armstrong est sur la Lune ». Et donc, ce signal-là, donc, il était celui capté par la NASA, retransmis à Houston, qui, elle, la rediffusait vers les stations de télé. Donc, on regardait ça vraiment en direct. Là. Quand on voyait ces images-là, c'était vraiment d'une transmission en direct, avec une seconde de délai, là, le temps que le signal arrive de la Lune à la Terre. Mais bon, on était vraiment en direct. Et donc, pourquoi ces bandes-là ont été effacées? Là, on comprend mieux l'histoire. En fait, la NASA avait le même signal. Il n'y avait pas un signal différent. Là. La NASA avait le même signal qu'elle retransmettait aux stations de télé. Là. Donc, parce qu'il existe de très, très bonnes images qui ont été filmées à partir du LEM. Hein. Dans le LEM lunaire, il y avait une caméra qui filmait en 70 mm. Ces images-là sont des images couleur sur un film. Hein. C'est sur du film et non pas un ruban magnétique comme une cassette ou une vidéo. Là. C'était vraiment un film. Donc, ces images-là, elles sont très, très belles. On les a encore. Elles ont été conservées. On ne les a pas jetées. On ne les a pas effacées. Et ce sont les images qui ont été utilisées d'ailleurs en 2019 lorsqu'on a fait un documentaire IMAX pour souligner le 50e anniversaire des hommes sur la Lune. On a fait une présentation IMAX, Apollo 11, et on a beaucoup utilisé les films 70 mm tournés par les caméras qui étaient à bord du vaisseau, à bord du LEM lunaire Eagle et du vaisseau Apollo, là où était resté Mike Collins. Donc, ces images-là, elles sont bonnes. Ce qu'on a perdu, c'est des images d'Armstrong qui débarque sur la Lune qu'on a vu à la télé, ces images-là. Bien, tu vas être surpris d'apprendre qu'il n'y en a pas de meilleures. et il n'y en a pas de meilleur.
Ah
c'était
oui, okay.
une erreur. Il y a une caméra qui était montée à bord, donc là, on a des images. Mais les images qu'on voyait à la télé, c'était le meilleur signal que l'on avait. Et ce qu'on découvre dans l'article de Tim Dodd, c'est que la NASA recevait ce signal-là, l'envoyait à Houston, et Houston l'envoyait aux stations de télé.
Oh, okay.
Elle, en même temps, la NASA filmait, enregistrait ces images-là. Elle les enregistrait sur des cassettes. Un peu l'ancêtre de nos... En fait, c'est des
VHS, mais c'est
trois quarts de pouce.
Ouais.
C'est un peu l'ancêtre de la cassette VHS.
Oui.
Là. Donc, on enregistrait ça là-dessus. Mais comme toutes les stations de télé recevaient le même signal, toutes les stations de télé ont les images, tu comprends? Si on va à Radio-Canada, puis tu vas aux archives de Radio-Canada, tu vas voir les images de Neil Armstrong qui débarque sur la Lune.
Qui arrivait de la NASA.
Qui arrivait de la NASA. C'est les mêmes images. Donc, la NASA, la NASA savait qu'elle avait des images qui étaient filmées depuis des caméras embarquées à bord du LEM et à bord du vaisseau Apollo. Donc, les images qu'elle rediffusait par la télévision, ben, c'était les mêmes images qui étaient diffusées partout à travers le monde. Donc, elle, la NASA, les images qu'elle a captées n'étaient pas meilleures que celles de NBC ou de CBS ou de Radio-Canada. C'était les mêmes images, le même signal. Donc, les cassettes en question, appelons ça nos cassettes VHS, quoi que c'était des grosses cassettes, trois quarts de pouce là, à l'époque. Mais bon, ces grosses cassettes VHS ont été mises dans une espèce de dépôt, puis éventuellement, elles ont été recyclées. Mais pourquoi la NASA ne s'est pas préoccupée de ça? Parce que ces images-là existent partout dans le monde. Toutes les stations de télé dans le monde ont ces images-là. Donc, la NASA ne s'est pas senti le besoin de la garder. Et l'erreur qu'elle a commise au moment où les cassettes ont été effacées, c'est qu'on n'avait pas anticipé qu'éventuellement, on pourrait reprendre ces cassettes-là et grâce à l'intelligence artificielle et des nouveaux logiciels, on est capable aujourd'hui d'améliorer l'image, on est capable de reconstituer l'image. Mais la NASA, à l'époque, quand on s'est débarrassé de ces cassettes-là dans les années 70, personne n'anticipait que si on les gardait, éventuellement, on pourrait les renumériser et éventuellement aller chercher des images plus éloquentes. On pourrait le faire aujourd'hui, mais il faudrait prendre les cassettes soit de Radio-Canada ou les cassettes d'ABC ou de NBC ou peu importe, parce que la NASA, elle a effacé les siennes. Puis la NASA n'avait pas un grand intérêt à garder ces images-là, puisqu'elles n'étaient pas de bonne qualité. Elle savait que toutes les stations de télé en avaient des copies, et sa copie n'était pas meilleure que celle qui était envoyée aux stations de télé, comme je l'ai mentionné, puisque c'était le même signal. Et qui plus est, elle avait les films 70 mm tournés à partir des caméras embarquées. Donc, c'est un peu faux, là, quand il y a du vrai et du faux, là, quand les théoriciens du complot nous disent la NASA a effacé les images du débarquement de Neil Armstrong sur la Lune. C'est vrai, mais ce n'est pas toutes les images. Elle a effacé les images qui étaient transmises au réseau de télévision parce que son image n'était pas meilleure. C'était le même signal brut qu'elle recevait, là. En revanche, elle a d'excellentes images de l'alunissage, mais qui ont été tournées à partir des caméras embarquées. Donc, il faut quand même faire cette nuance-là. Mais c'est vrai que la NASA, il faut quand même le dire, aujourd'hui, elle regrette d'avoir effacé ces images-là, parce que même si la NASA est un organisme civil et que les images ne sont pas protégées par des droits d'auteur, hein, c'est tout le monde qui nous écoute, si vous écrivez un livre ou faites un documentaire, il suffit simplement de mentionner « images de la NASA ». Vous n'avez pas besoin de demander un droit d'auteur ou de payer une rétribution à la NASA. Toutes les images de la NASA appartiennent au domaine public puisque c'est un organisme.
C'est un fonds public, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, c'est financé par les fonds publics. Mais si la NASA voudrait faire un travail de numérisation sur ces images-là, donc les images que l'on a vues à la télé en 1969, ben, il faudrait qu'elles se tournent vers les réseaux de télévision qui, elles, ont gardé des copies de ces images-là. Bon, c'est sûr que la NASA, aujourd'hui, doit certainement en avoir des copies, là, mais c'est vrai que le premier signal, parce que les gens ne se rendent pas compte de ça, si on prend une cassette VHS, puis tu fais une copie de ta VHS, tu vas perdre en qualité au niveau de la copie, mais pas au niveau du signal. Tu sais, le signal que recevait la NASA, il n'était pas meilleur à la NASA. Une fois qu'elle l'avait capté, elle retournait le signal à Houston, puis que Houston retournait le signal aux stations de télé.
C'est la même qualité.
c'est ça, il n'y avait pas de perte dans le signal. Le signal était toujours le même. Donc, c'est faux de croire que la NASA avait des super belles images fantastiques de Neil Armstrong qui débarquait sur la Lune, puis que Radio-Canada avait des images en noir et blanc granuleuses. Non, la NASA recevait aussi des images granuleuses en noir et blanc. Ça, c'était le signal transmis depuis l'espace par le vaisseau Apollo. Et la NASA s'est plutôt orientée vers les images 70 mm. Donc, voilà une grande théorie du complot qui vient d'être déboulonnée.
Ouais, oui, oui.
Non, la NASA n'a pas sciemment effacé les images du débarquement de Neil Armstrong dans le but, parce que tu comprends que dans l'idée de la théorie du complot, c'est de dire que ces images avaient été filtrées. Donc, les images qui étaient diffusées, les gens connaissent mal comment ça fonctionne. Ça fait toujours un peu rire, tu sais, quand j'entends des histoires. Oui, la NASA est passée sur le canal médical. Mais ça n'existe pas, sur le canal médical.
Le canal médical?
Oui, il y a des gens qui racontent ça. Ils ont vu des ovnis, puis là, ils sont passés sur le canal médical pour dire qu'ils voyaient des ovnis ou un canal secret. Non, le signal, il vient de l'espace. Il n'est pas filtré, là, il vient de l'espace.
Par tout le monde, mais
oui. N'importe qui a une antenne tournée vers l'espace capte le même signal. Il n'y a pas un canal dédié. Ce n'est pas l'Internet, ça. Ça ne demandait pas un code. Dès que tu as une antenne, les gens partout dans le monde entier, les radioamateurs, tournaient leur antenne et écoutaient les signaux qui venaient de l'espace. Puis là, il y avait les longueurs d'onde, puis ils écoutaient ça, puis ils scannaient ces longueurs d'onde, puis ils pouvaient capter toutes les longueurs d'onde. Il n'y avait pas de canal dédié spécifique. Ça, c'est un mythe, ça. Quand les astronautes parlaient, puis si l'astronaute disait « j'ai fait caca dans mon froc », les radioamateurs sur Terre auraient entendu Neil Armstrong dire « j'ai fait caca dans mon froc ». Tu sais, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le signal venait de l'espace, il n'y a pas un fil qui se faisait. Donc, à ce moment-là, les gens disent « bon, le signal a été modifié ». D'ailleurs, le signal, tous les radioamateurs, parce qu'il y a énormément de radioamateurs qui écoutaient les transmissions en direct depuis l'espace, et les radioamateurs avaient toutes leurs antennes tournées vers l'espace. Les antennes n'étaient pas tournées vers la zone 51 ou l'Evada. Ils étaient tournées vers la Lune, puis c'est de là qu'arrivait le signal. Donc, si c'était faux, il aurait fallu que la NASA trouve le moyen de faire croire que le signal venait de la Lune. T'sais, ça aurait été assez compliqué. Mais donc, les antennes étaient tournées, puis les gens, les radioamateurs, comme les radios professionnelles ou les grands radiotélescopes qui étaient tournés, qui servaient d'antennes pour capter les signaux, il n'y avait pas de filtre, là. C'était le signal brut arrivait de l'espace, puis c'était ce signal-là. Donc, dans les théories du complot, c'est de dire, on a filtré le signal parce qu'à un moment donné, on a parlé soit du décor ou sur certaines des images, on voyait apparaître des éléments du décor, on aurait vu apparaître un technicien ou quelque chose comme ça. Donc, la NASA aurait filtré ces images-là pour pas qu'on voit ça. Et c'est ces images-là qu'elles ont détruites pour pas qu'on voit ça. C'est de la foutaise, tout ça, là. On a un signal brut qui vient de l'espace, puis n'importe qui avait une antenne tournée, si c'était une antenne radio, il captait le signal radio. Puis si c'était une antenne qui captait des signaux télé, il aurait capté des signaux télé aussi. Tu sais, bon, il n'y avait pas de canal spécifique à ça. À partir du moment où il y a une transmission, la transmission devient soudainement publique. Elle est accessible à n'importe qui. Donc oui, la NASA a vraiment effacé ces bandes-là. Pour des raisons, comme je l'ai expliqué, parce qu'elle les jugeait pas de meilleure qualité que celles que détenaient toutes les autres stations de télé, et qui plus est, elle pouvait se rabattre sur des images qui avaient été tournées en 70 mm par les caméras qui étaient embarquées sur les missions Apollo. Elle n'a pas fait cette erreur-là avec les autres missions. Hein. Mais en fait, elle n'a pas fait la même erreur. Même à l'époque, elle ne savait pas que c'était une erreur. Hein. Quand il y a eu les missions suivantes, il y a eu Apollo 12, 14, 15, 16 et 17, on a utilisé exactement la même mécanique. On avait un signal brut qui arrivait de l'espace, qui était retransmis à Houston, de Houston vers les stations de télé. Mais les cassettes des autres missions de la NASA, des autres missions Apollo, n'ont pas été effacées. Il faut quand même le dire, l'un des éléments qui a entraîné le fait qu'on a récupéré ou recyclé les cassettes d'Apollo 11, elles avaient été mal identifiées aussi. On avait simplement marqué dessus NASA, puis on l'avait mis sur la tablette. On n'avait pas correctement marqué Apollo 11, c'était pas clair. Fait qu'un technicien est arrivé en 1972, il a besoin d'une cassette, il a ramassé cette cassette-là, il a regardé, c'était marqué NASA dessus. Ça va être bon, ça. Puis il l'a recyclé. Les autres cassettes étaient mieux identifiées, donc on a évité d'enregistrer par-dessus. Mais il est certain que si la NASA se serait trouvée avec un manque de cassettes, on aurait très bien pu enregistrer par-dessus les cassettes d'Apollo 12 puis d'Apollo 14. Ça ne s'est pas fait, heureusement pour nous. Puis aujourd'hui, on peut numériser ces cassettes pour avoir de meilleures images.
Très intéressant, Christian Page, et c'est tout le temps qu'on a pour cette édition.
Je sais, je viens de voir ça passer. Ben, j'espère que ça a été apprécié.
Fort
la semaine prochaine, ben, comme je te dis, ben, on reviendra sur cette histoire de Donald Trump et à quoi doit-on s'attendre avec la révélation des dossiers OVNI.
Avec un immense plaisir. D'ici là, ben, je te souhaite un excellent week-end. Et puis, on se reparle vendredi prochain pour une autre édition des Radio X-Files.
Excellent. Parfait.
Bye. Bon week-end.
Bon week-end à tous. Bye-bye.
C'était les Radio X-Files. Bougez pas au retour de cette courte pause. C'est la Sexploratrice qui s'installe sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X.